RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Il sera question de deux Denis dans cette émission. Deux Denis que presque deux siècles séparent, mais qui cette semaine vont nous faire phosphorer. Le premier, c'est Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune, dont le deuxième opus caracole en tête du box-office depuis trois semaines. Le deuxième, c'est Denis Diderot, le philosophe encyclopédiste. Il est considéré comme le père du théâtre moderne avec son livre « Le paradoxe du comédien ». L'universitaire Laurence Marie est une spécialiste de Diderot et pour accompagner une nouvelle édition du paradoxe, elle a rencontré 50 artistes qui lui racontent leur rapport au jeu et à la scène. On l'écoutera en fin d'émission. Dans Effervescence, comme chaque semaine, on découvrira les coups de cœur de nos chroniqueurs, de quoi s'en mettre plein la vue et plein les oreilles. Et cette semaine, nous sommes en formation réduite, deux chroniqueurs dans notre studio virtuel. Nicolas Tocher est à Metz. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Vous êtes dans les studios de RCF. Avec vous, on parlera, mais n'ayez pas peur, hein, art et psychanalyse, à l'occasion de l'exposition Lacan au Centre Pompidou de Metz. Et puis, vous nous ferez découvrir un artiste de la scène électro de cette bonne ville de Metz. Éric Payet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de l'émission Le Jour du Seigneur, en homme de télévision. Vous avez vu deux programmes que l'on peut découvrir sur nos petits écrans. Il y a d'abord la série Exterminer toutes ces brutes, que l'on peut revoir sur Arte, il ne faut pas avoir peur du titre. Et puis, sur Netflix, vous avez vu le doc The Greatest Night of the Pop, un film qui devrait raviver quelques souvenirs. Guillaume Goubert n'est pas avec nous, mais il a vu pour nous au théâtre Les Raisins de la Colère, une adaptation du roman de Steinbeck. Voilà, chacun a sa place, on peut commencer Effervescence.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Peut-on passer à autre chose quand on a subi un inceste? Et quelle place pour la famille dans cette reconstruction? Un film et une BD sortent ces jours-ci et partagent le même constat de la difficulté pour les proches et pour la victime d'avancer ensemble sur ce chemin. Christine Angot est l'une des premières à avoir, dès 1999, raconté comment son père l'avait violée dès l'âge de 13 ans. 1999, c'était il y a 25 ans. Une éternité. Depuis, l'écrivaine n'a cessé de creuser son sillon littéraire pour tenter de faire reconnaître sa souffrance. Christine Angot est une victime en colère. Et on n'aime pas les victimes en colère. On les préfère dociles, discrètes, soumises. Une famille, son premier film, est depuis mercredi au cinéma. Christine Angot retourne à Strasbourg, là où vivait son père, là où il la violait. Il est mort et elle retourne là-bas pour parler avec sa belle-mère et ses enfants. Elle rentre de force chez eux pour les confronter à son inceste. Elle veut qu'ils l'écoutent, elle espère libérer leurs paroles. En vain. La rencontre est impossible à tout point de vue. Alors je n'ai pas encore vu le film de Christine Angot. Ceux qui l'ont vu ont été submergés, voire choqués par la violence de la démarche de Christine Angot. Mais qu'y a-t-il de plus violent qu'un inceste ? L'inceste, c'est la négation même de l'enfant. C'est aussi la négation même de la famille. Comment un enfant peut-il s'en remettre ? Comment une famille peut-elle s'en remettre ? Peuvent-ils s'en remettre ensemble ? Cette implosion du cocon familial après l'inceste, cette impossibilité à refaire famille, on les découvre également dans une bande dessinée sortie chez Dupuis, Les yeux fermés. Ici, pas de violence dans la narration, pas d'effraction pour approcher la famille. Mais là aussi, face à l'impossibilité d'être reconnu dans sa souffrance, on en viendrait presque aux mains. L'histoire de la comédienne Héloïse Martin, dont la BD Les yeux fermés est inspirée, est pourtant bien différente de celle de Christine Angot. Violée par un oncle quand elle avait 8 ans, l'agression de l'héroïne a tout de suite été reconnue, la chose jugée, l'oncle condamné. Quand commence l'histoire, elle est devenue une jeune comédienne prometteuse. Lui a purgé sa peine, est sorti de prison. Les grands-parents fêtent leurs noces d'or et tout le monde est invité à la fête. Oui, tout le monde. Cette histoire met en avant l'impossible reconstruction familiale et surtout la difficulté des victimes à être reconnues. Alors c'est une chose de libérer la parole, c'en est une autre d'être véritablement aux côtés des victimes. Plus de 30 000 personnes ont ainsi témoigné auprès de la Civise, l'instance sur l'inceste. Mais la Civise a fait pchit. Ou plutôt, on a organisé le démantèlement de cette instance. Alors devant cette indifférence politique, on n'a plus que jamais besoin que les auteurs, les artistes s'emparent de cette question, inventent des formes nouvelles pour raconter la pédocriminalité. Des formes suffisamment puissantes pour interpeller l'opinion, suffisamment subtile pour ne pas susciter malaise et rejet. Alors merci à tous ceux qui s'attellent à cette tâche délicate. Christine Angot, Héloïse Martin, et on n'oublie pas non plus Neige Chineau et son Triste Tigre, prix Femina et Goncourt des lycéens 2023.
Ce monde est d'une cruauté sans nom. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles. Et elle a été massacrée. Y compris mon père.
Ton père ne croyait pas à la vengeance.
Nous croyons aux Fremen.
Laissez-moi combattre à vos côtés.
Rechargez!
Bienvenue à tous sur la planète Arrakis. Effervescence se met à l'heure de Dune et plonge, non sans une certaine inquiétude, dans les aventures de Paul Atreides au pays des Fremen. Le deuxième opus de Dune, sous la caméra de Denis Villeneuve, est sorti il y a 3 semaines et cumule déjà plus de 2,9 millions d'entrées en France. Le premier film avait dépassé les 3 millions. Alors, c'est un succès sans surprise, hein, Nicolas Tocher, tant Dune, c'est quand même un roman culte de l'américain Frank Herbert et il appartient à la mythologie de la pop culture, on peut dire ça comme ça ?
Oui, c'est clair. Alors, moi, j'ai vu que la première partie hein, jusqu'à présent, mais c'est à la fois sans surprise et à la fois c'en est une parce que le livre de Frank Herbert pouvait paraître parmi ses œuvres un peu qui sont censées être inadaptables. D'ailleurs, David Lynch avait fait l'expérience dans les années 1980 avec quand même un échec un peu cuisant. Hein, si on le revoit aujourd'hui, c'est y a un petit côté un peu ridicule. Et pourtant, j'adore l'œuvre de David Lynch de manière générale. Et là, il se trouve que le film est réalisé par Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve, c'est quand même un peu l'homme de ces missions impossibles. Il avait déjà fait le Blade Runner, la suite de Blade Runner, hein, qui était aussi mythique que le film de Ridley Scott des années 1980. Et ce Blade Runner était une vraie réussite. C'était Blade Runner 2049, alors que là aussi, ça semblait être une suite impossible. Et là, c'est lui qui adapte Dune avec son espèce de... Il y a quelque chose d'un peu grandiloquent dans les effets spéciaux, notamment. Et ces effets spéciaux, ces effets techniques sont un peu gigantesques. Ils sont utilisés évidemment très largement. On est dans de la science-fiction. Mais contrairement, par exemple, aux films Marvel, hein, qui ont un peu régné sur le box-office depuis une dizaine d'années, bah là, les effets spéciaux sont étonnamment crédibles et surtout étonnamment esthétiques. Alors du coup, c'est une réussite plutôt cinématographique. En tout cas, moi, pour la première partie que j'ai vu, mais des retours que j'ai de la seconde, c'est la même chose. Et c'est aussi une réussite publique. Et du coup, ça fait plaisir quand les deux sont cumulés. Le premier volet, il avait déjà réuni plus de 400 millions de dollars, hein, au niveau, on parlait du box-office français, mais au niveau mondial. Et là, le deuxième est déjà au bout de à peine 3 semaines d'exploitation à plus de 500 millions. Donc, c'est un des gros succès de l'année, c'est sûr, mais sans doute de la décennie. Et du coup, moi, je suis très preneur de ces films qui réconcilient un peu le cinéma. On va pas dire d'auteur, hein, parce qu'on est quand même dans un blockbuster, quoi. Mais en tout cas, la réussite cinématographique, disons, et puis la réussite publique dans ce registre, Oppenheimer m'avait assez marqué l'année dernière. Et puis c'est très transgénérationnel, hein, cette réussite, c'est-à-dire que ça touche sans doute des fans du livre dont je suis, et puis qui vont jusqu'à le livre date quand même, hein, bien sûr, donc de tous âges, et aussi une jeune génération qui peut-être n'a pas lu le livre, peut-être l'a lu, hein, ça je ne sais pas, mais qui est attirée aussi par un casting qui est assez malin avec Zendaya et Timothée Chalamet, hein, qui sont quand même des idoles pour un jeune public, et qui ont fait le jeu de la promo de manière assez large pour ce deuxième volet et qui du coup participe à mon sens à cette réussite publique qui est majeure dans cette année 2024 et qui fait plaisir pour un peu le renouveau du cinéma après les années Covid, quoi.
Éric Payet, alors vous avez vu les deux volets. On espère, hein, parce que quand on arrive à la fin du volet, on espère qu'il y aura un troisième, parce qu'on reste sur la fin. C'est sûr, Norin ?
C'est sûr, oui.
C'est sûr.
Alors, il s'arrêtera à 3, voilà. Parce qu'il pourrait aller plus loin. Là.
Oui. Le premier... poser le décor. Alors Nicolas l'a dit, c'est du grand spectacle. On est ébloui, enfin, par les images. Mais bon, il se passait pas grand chose. Là, dans le deuxième, on rentre véritablement dans l'action.
On rentre vraiment dans les thèmes principaux qui vont animer l'histoire, parce que c'est un récit qui pose d'autres enjeux que simplement des bagarres au sabre laser qu'a pu faire Star Wars. Mais c'est vrai que la grande réussite de Denis Villeneuve, c'est de réussir à garder la trame du livre. Tout le monde disait que c'était en effet inadaptable. Il réussit à garder la trame, les enjeux, les récits, et dégager quand même énormément d'espace pour faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire une fresque cinématographique grandiose, avec voilà, on se laisse d'abord embarquer par des images et du son quand on va voir Dune.
Est-ce que vous croyez en Paul ?
Il y a des signes. Prophète, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Il faut t'en servir!
parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs.
Parce que tu perds le contrôle.
Parce que je le prends. Johnny, tu crois en moi ?
Paul Atreides est toujours en vie.
Occupez-vous de ce prophète.
Montre-moi qui tu es.
Alors voilà, ça c'est la magie des bandes-annonces, hein, toujours un copier-coller des punchlines. Là, les références religieuses, Éric Paillet, elles sont vraiment multiples. On n'entend pas, mais il y a quand même, au début, il y a quand même l'épice hein, qui moi, me fait forcément penser à la manne dans le désert. J'avoue que j'hésite. Hein, est-ce que c'est pas un gloubi-goulga ésotérico-religieux ? On a du mal à avoir un sens spirituel derrière toutes ces références, et en premier lieu, l'élu.
Alors, en même temps, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand dans ce deuxième volet, il pose les enjeux, il place en effet l'aspect religieux de l'histoire de Frank Herbert au cœur de ce deuxième épisode, là où David Lynch l'avait complètement occulté. C'est assez étonnant. Hein. David Lynch n'était pas du tout attaqué. Et personne n'a compris son film. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. David Lynch est capable de nous perdre en faisant traverser quelqu'un la rue. Dans le monde que décrit Dune, on a en effet un ordre qui apparaît déjà dans le premier, mais on comprend mieux quelle est sa place, qui est les Bene Gesserit. Alors c'est un ordre religieux, dit-on, inspiré des jésuites. Ce sont des femmes qui contrôlent les lignées et qui ont une vision dont l'enjeu est de contrôler cet univers, contrôler ce monde au-delà des aspects politiques. Et c'est vraiment l'un des enjeux de Frank Herbert, c'est de dénoncer le politico-religieux. Et il va planter les éléments qui vont s'affronter certainement dans le troisième volet, c'est-à-dire d'un côté un aspect religieux très froid, très calculateur, politique, qui est celui des Bene Gesserit, mais qui, pour contrôler cet univers, envoie des femmes aux quatre coins de la galaxie, puis elles vont, selon les peuples qu'elles rencontrent, semer des prédictions, semer des mythes, et notamment sur la planète qui est l'enjeu de Dune, la planète Dune, elles vont annoncer un messie qui doit venir et qui est... Est-ce que c'est Paul ? En tout cas, c'est tout l'enjeu du deuxième épisode, c'est de savoir si lui est l'élu. Et on va voir s'opposer deux visions de la religion, c'est-à-dire d'un côté ce calcul froid, politique des Bene Gesserit, et de l'autre côté ce peuple de Dune, alors qui est dans une religiosité qui est très inspirée de l'islam, avec des touches de bouddhisme, zen, enfin je suis d'accord avec vous sur le côté gloubi-goulga, mais qui en même temps est guidé par la venue messianique et avec le travers que ça peut avoir qui est tombé dans le fanatisme. Et ça va être ça l'enjeu du troisième, c'est de voir cette opposition.
Celle qui résiste, c'est une femme, c'est le personnage de Zendaya.
Oui, de la même façon que ce sont des femmes qui machinent l'ensemble. Je vous vois venir.
La bande originale est signée Hans Zimmer et ce morceau qu'on vient d'écouter s'appelait Résurrection, comme quoi tout est lié. Alors, peut-être Éric Paillet que plus qu'une métaphore spirituelle, il y a bien une métaphore politique dans ce film.
Oui, c'est sûr que basiquement, quand on arrive sur Dune, c'est une planète de sable avec un peuple autochtone qui fait énormément référence au peuple de la péninsule arabique ou du Maghreb. Le langage est pratiquement arabe. Les tenues vestimentaires,
les tatouages.
C'est les tatouages. On a l'impression dès qu'on est dans les villages, on a l'impression d'être en Algérie. Et puis il y a cette épice qui est donc la richesse de ce sol et qui est exploitée exploitée par un consortium international. Alors, est-ce que c'est l'OPEP? Est-ce que c'est les grandes compagnies internationales? Basiquement, c'est vrai que c'est ça l'enjeu. Et il faut comprendre que quand on démarre l'œuvre de Frank Herbert, on est en 1965. Il va écrire les différents volumes sur 20 ans, parce que je crois que le dernier qu'il a écrit, c'est en 1985 ou 1986. Donc on voit bien qu'en 1965, on est dans la décolonisation. Donc ces enjeux de libération de peuples, d'exploitation, sont évidemment extrêmement présents dans l'actualité, et visiblement c'est là qui s'inspire pour écrire.
Mais on peut aussi voir ça comme un simple divertissement, ne pas bouder son plaisir, et surtout aller le voir en salle, c'est important.
Il faut surtout aller le voir en salle parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout des images et du son. L'image est magnifique, le cadrage aussi, il n'y a pas un cadre qui est à côté. Vraiment, Denis Villeneuve a un travail de cinéma remarquable. Et en effet, c'est plutôt plutôt divertissant, et je ne pense pas qu'il faut aller voir comme un traité politique ou un traité religieux.
Voilà, vous avez compris. Allez voir Dune, allez le voir en famille avec à la musique Hans Zimmer.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Alors, s'il ne fallait pas faire de Dune un traité politique, là, ce dont vous allez nous parler, Éric Payet, c'est vraiment un traité politique. C'est une série qui est proposée par Arte. C'est la deuxième diffusion, je crois qu'on l'avait... Moi, je l'avais vue il y a 2 ans, je crois. Une série au titre qui peut faire peur, Exterminer toutes ces brutes. Vous pouvez peut-être nous expliquer le titre. Et une série qui est signée Raoul Peck. Raoul Peck, vous nous rappelez qui est Raoul Peck?
Raoul Peck est un réalisateur haïtien qui a fait quelques fictions, mais qui s'est surtout illustré dans le documentaire. Il avait fait notamment un documentaire... coup de poing assez extraordinaire, moi que j'adorais, qui s'appelait I'm Not Your Negro, je ne suis pas votre nègre, qui racontait, qui était autour de l'œuvre de James Baldwin, cet auteur américain, noir américain, qui pris dans la lutte contre la ségrégation, contre le racisme, et qui a vu ses amis mourir les uns après les autres, Malcolm X, Martin Luther King, et qui essaye de s'interroger sur ce pourquoi du racisme dans profondément ancré dans l'âme américaine.
Alors cette interrogation sur le pourquoi du racisme, le pourquoi de l'esclavage, le pourquoi du colonialisme, il est aussi au cœur, ces interrogations qui sont au cœur de l'œuvre de Raoul Peck et qu'il décortique dans cette série.
Oui, c'est vraiment la suite. Exterminer toutes ces brutes, c'est un titre qu'il emprunte à un auteur suédois qui s'appelle Sven Lindqvist, je dis certainement très très mal. Qui avait écrit un livre du même titre, qui traitait justement de ces questions. Et alors c'est peut-être ce qui est compliqué dans cette série de documentaires, ce sont 4 épisodes de 1 heure, c'est qu'on ne sait pas exactement où s'arrête et où commence la pensée de l'un et de l'autre. Raoul Peck fait un récit à la première personne, il a sa voix qui nous guide tout au long de ce travail documentaire, avec beaucoup une richesse de différentes sources, cinématographiques et même de la reconstitution, de l'animation. Enfin, il y a plein de choses, et en même temps un propos implacable sur sa vision de la suprématie blanche et comment l'idée de la suprématie blanche aurait, selon lui, été le principal moteur de ces massacres qui se sont perpétués tout au long de l'histoire.
Je ne cherche pas à me plaindre. Je veux juste comprendre. Faire commerce d'êtres humains. Quel esprit malade a eu le premier cette idée? Amener de force et pousser à la mort. L'esclavage, ou la traite, comme il l'appelle par euphémisme. un génocide agréé par l'État. Qu'est-ce que cela dit d'un monde prétendument civilisé ?
Alors c'est un documentaire qui est un peu déstabilisant.
C'est radical, hein, c'est vraiment radical. Il y a énormément de débats autour de ce que dit Raoul Peck dans cette série. Moi je trouve que les questions qu'il pose, en tout cas, elles sont extrêmement fortes et on peut ne pas se satisfaire des réponses que lui donne. C'est celle d'un Haïtien qui est profondément aussi marqué dans sa chair et dans son histoire. D'ailleurs, il mêle dans toutes ces sources que j'évoquais ses propres films familiaux. Donc on voit bien que sa place n'est plus celle de l'observateur, c'est celui du Haïtien, du réalisateur, de l'auteur qui vient prendre la parole et qui vient exprimer non seulement son point de vue, mais son expertise. Ouais, le point de départ.
Il y a des images quand même qui sont terrifiantes et qui restent 2 ans après, les images des massacres du roi des Belges, Léopold.
Au Congo, c'est
terrifiant. Hein, voilà.
Et c'est vrai que c'est ça son point de départ, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à un moment, une population va en exterminer une autre. Et au cœur de cela, lui dit, il y a cette idée de renvoyer l'autre à quelque chose d'animal, quelque chose qui nous soit inférieur, et ce qui justifie qu'au fond, on puisse les effacer. Et Raoul Peck, à partir de là, fait un travail pour se dire, depuis le massacre des Amérindiens jusqu'à la Shoah, on voit bien que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Et c'est ça son point de départ, il le dit dès le départ, il nous dit, pour certains, le récit historique est un récit comme un autre, il peut y en avoir plusieurs. Non, ce n'est pas vrai. Les faits n'ont pas d'alternative. Donc lui, il veut revenir sur des faits, il va reprendre des moments clés de l'histoire pour se dire, mais ça, regardez la façon dont on évoque le monde, c'est la version qui nous vient de l'Europe. Quand on nous dit que le siècle des Lumières, c'est le moment où dans le monde entier, on réfléchit à la condition de l'homme et qu'on donne enfin une vision de l'homme et de l'humanisme. C'est pas vrai, ça se passe dans un petit coin d'Europe, le reste vit dans la barbarie, c'est la traite négrière, c'est les massacres. Quand on parle de la découverte de l'Amérique, mais c'est pas vrai, l'Amérique, il y a des peuples qui sont là, ce sont des Européens qui ont débarqué en Amérique, ce n'est pas autre chose. Et ça, c'est vraiment pour les petits détails, mais il passe au crible l'ensemble des derniers siècles pour nous dire, réfléchissez, de quel côté êtes-vous de la vérité historique ?
Exterminer toutes ces brutes de Raoul Peck, c'est à voir sur la chaîne d'Arte jusqu'au 7 avril. On va maintenant aller du côté de chez vous, Nicolas Tocher, au centre Pompidou de Metz, où une exposition se tient autour de l'œuvre du psychanalyste Lacan. Alors c'est un peu surprenant d'associer la psychanalyse et la peinture.
Alors c'est effectivement, si on se tient à Lacan comme un des grands penseurs de la psychanalyse, ça peut paraître complètement surprenant de voir une expo qui lui est dédiée donc au centre Pompidou-Metz. Et pourtant, les liens entre Lacan, son travail et puis l'art, ça a toujours été un de ses marqueurs importants. C'est pas le plus connu, mais c'est justement ce que cette expo explore et c'est ce qui la rend intéressante. Alors d'abord, Lacan, c'était vraiment un grand amateur d'art et même un collectionneur. Il a collectionné des œuvres de Balthus, de Renoir, de Monet, de Giacometti, des dessins de Picasso. Et c'est lui qui a acheté le mythique L'origine du monde de Gustave Courbet en 1955. Et il lui fera d'ailleurs, pour que les amis qui viennent visiter chez lui ne le voient qu'avec parcimonie, il lui fait construire un cache par André Masson, un cache coulissant comme ça qui révèle le tableau petit à petit. Et qu'on voit également au centre Pompidou-Metz. Et donc, il a fréquenté des artistes importants du XXe siècle. Il a fréquenté Dali, Bataille, Picasso également. Et sa première femme était l'artiste Marie-Louise Blondin, la peintre. Et puis on peut rappeler cette citation de Lacan, il disait « Le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, c'est de se rappeler, avec Freud, qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voie. » Et ainsi donc, le psychanalyste précéderait toujours, l'artiste précéderait toujours le psychanalyste. Alors du coup, ça se manifeste dans l'expo par les différents concepts que Lacan a produit pendant sa vie. D'abord, le plus connu, le stade du miroir, hein, qui a inspiré nombre d'artistes et de cinéastes. Le concept de la langue, qui est un mot en un seul mot, hein, la langue inventée par Lacan pour désigner une forme du langage qui est plus en prise avec le réel. Et nombre d'artistes ont joué avec ces mots, dont Bertrand Lavier dans l'exposition. L'objet A, que Lacan décrit comme la cause de toutes les causes, qui crée chez le sujet un sentiment de manque, et que le sujet va tenter de combler par un objet qui satisfait ses besoins. Alors, je ne vais pas vous brosser tous les concepts lacaniens.
Non,
hein.
C'est pas le propos de l'émission.
Je ne suis pas du tout un spécialiste, en plus. Mais chacun de ces concepts a dans l'exposition un espace qui lui est dédié, et donc qui exprime, ou des œuvres expriment finalement ce concept lacanien, alors qui n'ont pas forcément été inspirés par Lacan, mais qui l'expriment finalement, qui le représentent au mieux. Donc on peut voir toute l'exposition par ce prisme de ces concepts. Et dans ce cas-là, je pourrais vraiment vous recommander de visiter l'expo avec quelqu'un qui vous guide, hein, avec un guide de l'exposition, parce que pour expliquer ces concepts qui sont parfois un peu obtus quand même, c'est pas plus mal. Mais on peut aussi, j'allais dire, un peu comme Dune, le voir comme un simple divertissement et aller profiter des œuvres sublimes de l'expo, parce que il y a l'origine du monde, bien sûr, mais il y a aussi le Narcisse de Caravage, il y a le portrait de l'infante Marguerite Thérèse de Velázquez, il y a Magritte, il y a Dali, il y a Annette Messager, enfin rien que ça. Enfin, bref, il y a une exposition qui est majestueuse rien que par les œuvres qui la composent. Et puis on peut même s'abuser de ces concepts. Et puis le dernier à s'amuser des concepts n'est pas Bertrand Lavier, et justement lui il a une œuvre où c'est simplement une scie et une lance qui sont posées sur un mur, et du coup ça fait silence. Voilà, ce type de jeu de mots comme ça qui sont le propre de l'art contemporain, et dont Bertrand Lavier est forcément un très bon auteur. Et puis lorsqu'on a fini de déambuler dans les salles de l'expo, on se rend peut-être compte que nos pas qui ont été guidés par la scénographie et par la visite guidée, en fait ça forme un ruban de Möbius, qui est encore un concept lacanien. Donc voilà, c'est au centre Pompidou. C'est jusqu'au 27 mai, c'est une très belle exposition.
Effectivement, ça fait bien envie. Merci beaucoup Nicolas Tocher. On va retrouver Guillaume Coubert, vous savez, il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a enregistré un papier sur une pièce de théâtre qu'il est allé voir à Paris. On l'écoute.
Un roman de plus de 400 pages, adapté en un spectacle théâtral d'1h30, où tous les rôles sont joués par un seul acteur, c'est la performance à laquelle on peut assister à Paris, au Théâtre Michel, jusqu'à fin avril. Le spectacle sera ensuite repris en juillet au Festival d'Avignon. Le roman, ce sont Les raisins de la colère de John Steinbeck. Celui qui est à l'origine de la pièce s'appelle Xavier Simonin. Il est l'auteur de l'adaptation et de la mise en scène, et il est celui qui, sur scène, interprète tous les personnages, hommes, femmes, jeunes, vieux, passant de l'un à l'autre avec une facilité confondante. Il n'est cependant pas seul sur scène. Trois musiciens l'accompagnent, ponctuant le drame de leurs instruments et de quelques mouvements scéniques. La direction musicale est signée de Jean-Jacques Milteau, un des plus grands musiciens français en matière de jazz, de folk et de blues. Ce qui frappe face à ce spectacle, c'est l'extraordinaire actualité que conservent les raisins de la colère. Il s'agit d'une famille de paysans de l'Oklahoma, au centre des États-Unis, chassés de leurs terres par la sécheresse et l'industrialisation de l'agriculture. Ils prennent la route de la Californie, espérant y trouver une vie meilleure. Changement climatique, productivisme, migration, voilà bien des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui même. Ce qui m'a ému aussi en regardant ce travail théâtral, c'est de penser à la place importante de cette crise agricole des années 30 dans notre imaginaire. Il y a le roman de Steinbeck, publié en 1939, son adaptation au cinéma par John Ford dès l'année suivante. Henry Fonda y joue le rôle principal. Il y a le travail photographique de Walker Evans, Gordon Parks ou Dorothea Lange, qui est l'auteur d'une des images les plus marquantes du XXe siècle, Migrant Mother, une mère migrante entourée de deux de ses enfants qui, l'un et l'autre, cachent leur visage à l'objectif. Il faut enfin évoquer Woody Guthrie, chanteur folk, né en 1912 en Oklahoma. Il a vécu cette crise en première personne et en a tiré une chanson qui est un véritable hymne populaire aux États-Unis. This land is your land. Ce pays est ton pays. Elle a été reprise par de très nombreux artistes. La version que je préfère est celle d'une chanteuse noire, Sharon Jones, grande figure de la soul music. En revisitant la chanson de Guthrie, elle relie la vie difficile des petits fermiers blancs à celle des descendants d'esclaves. This land is your land.
Quelle voix, Sharon Jones, This Land is Your Land.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Et merci pour votre fidélité au magazine de l'étonnement culturel. Je suis cette semaine avec Nicolas Tocher et Éric Payet. Éric, avec vous, on va remonter dans le temps. Je me rappelle, j'étais une petite fille. On est en janvier 1985 et il se passe un truc incroyable de l'autre côté du Pacifique.
À l'époque, alors il y a un contexte qui est dramatique, c'est qu'il y a une énorme famine en Éthiopie. Et en Angleterre, il y a eu un premier concert caritatif qui était organisé par Bob Geldof. Et aux États-Unis, ils se disent, il faut qu'on fasse quelque chose, nous aussi. À l'initiative, c'est Harry Belafonte, cet acteur et chanteur américain qui est allé sur place et qui revient et qui dit « c'est pas possible, c'est un drame incroyable, il faut qu'on se mobilise ». Et il va convaincre un petit noyau qui sont composés de Quincy Jones, le producteur, Lionel Richie et Michael Jackson, de composer une chanson. Puis le but, ça va être d'agréger des acteurs. Alors, voilà, le documentaire dont on parle.
On parle d'un documentaire,
on est en train de sauter les étapes. Toute cette histoire, vous pouvez la retrouver dans un documentaire qui s'appelle The Greatest Night of Pop, qui est sur Netflix. Et donc, à partir d'images d'archives, parce que presque tout a été filmé dans cette histoire, c'est ça qui est génial. Et puis, avec des interviews aujourd'hui de pas mal des protagonistes de l'époque qui reviennent sur cet événement, on comprend...
Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on fait... Chacun enregistre dans son studio personnel et puis on colle les bandes. À l'époque, c'est impossible, donc toutes les stars ont rendez-vous au même endroit.
Toutes les stars ont rendez-vous au même endroit et c'est l'énorme défi. C'est-à-dire que pendant que Lionel Richie et Michael Jackson essayent de composer cette chanson, on se dit mais comment est-ce qu'on va réunir 40 stars au même endroit pour enregistrer ensemble ? Et il y a une solution, c'est de profiter des Grammy Awards qui vont avoir lieu 10 jours plus tard pour se dire, une fois qu'ils ont fini la cérémonie, on les pousse dans un studio et ils chantent. Et c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'une fois que la cérémonie est finie, ils partent dans un studio dont ils n'avaient pas l'adresse, parce que tout ça est tenu très secret, et on fait rentrer 40 stars avec leur ego. D'ailleurs, Quincy Jones met une grande pancarte au-dessus de la porte, laissez votre ego dehors. Alors il y en a d'ailleurs qui ne vont jamais franchir la porte, comme Prince, qui lui n'a pas réussi à laisser son ego de côté. Et on a 40 stars qui rentrent. Alors il y a Stevie Wonder, il y a Hugh Lewis, il y a Bruce Springsteen, il y a Cyndi Lauper, Dan Aykroyd, ils sont 40, Diana Ross, Tina Turner, Ray Charles. Et le but du jeu, c'est qu'avant que la nuit se termine, on ait enregistré ce titre. Et là, on va voir toute la maîtrise de ce producteur Quincy Jones, alors qui est extrêmement respecté parce qu'il a pris un chanteur qui avait un petit peu de succès qui s'appelle Michael Jackson et il lui a juste permis de faire un album qui s'appelle Thriller, qui est l'album le plus vendu au monde. Donc quand Quincy Jones dit c'est moi qui suis aux commandes, tout le monde vient, y compris Springsteen qui a terminé la tournée Born in the USA la veille à l'autre bout du pays, qui prend un avion pour débarquer. Enfin voilà, ils sont là. Et le documentaire montre très bien dans la deuxième partie, qui est celle de l'enregistrement, comment ces artistes doivent réussir à chanter devant les autres. C'est pas facile. Et puis en même temps, il y a des petits interstices, les pauses où il se passe énormément de choses. Juste une anecdote que moi je trouve formidable, parce qu'il y en a un qui est complètement paumé là-dedans, c'est Bob Dylan. Il comprend pas ce qu'il fait là. C'est pas son truc de se retrouver avec 40 artistes chanter devant eux. Et on le voit d'ailleurs quand la caméra se balade sur lui et qu'ils chantent tous ensemble. Lui, on a l'impression que c'est le joueur de foot qui connaît pas les paroles d'un Marseillaise, vous savez. Et à la fin, les producteurs veulent absolument qu'il chante au-dessus de tout le monde, et le micro s'allume et il sait pas quoi faire. Il est devant 40 autres et il sait pas, il marmonne, et tout le monde est gêné, c'est la gênance totale. Et là, par exemple, il y a Stevie Wonder qui profite de la pause, qui se met au piano, qui commence à jouer et qui sait imiter tout le monde. Et pour jouer, il va imiter Bob Dylan. Tout le monde rigole, et simplement il est en train de dire « Regarde Bob, c'est ça que tu peux faire ». Et quand on reprend, Bob Dylan s'inspire de ce qu'a fait Stevie Wonder, et là c'est génial. Voilà, ce n'est qu'une anecdote, et quand ils sortent à 6h du mat, il y a ce morceau qui est légendaire, « We are the world », et quand vous regardez le documentaire, vous comprenez tout ce qu'il y a derrière.
When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day.
Voilà, We Are The World, et vous avez compris, hein, il faut aller regarder sur Netflix ce documentaire, The Great of Night in the Pop.
Exact.
Alors, à Metz, Nicolas Tochet, on le sait, vous avez une scène musicale ultra dynamique avec des nouvelles têtes talentueuses, et vous nous en présentez une aujourd'hui.
Oui, je vous ai déjà parlé de Romain Muller l'année dernière, dont j'attends avec impatience le nouvel album qui sort à la fin de l'année. Et c'est sur le même label qui s'appelle Coco Machine, qui vient de sortir il y a à peine un mois, le premier album d'un dénommé Josie Bazar, et l'album s'appelle Alinéa. Alors Josie Bazar, c'est le pseudonyme, hein, bien sûr, il ne s'appelle pas vraiment Josie Bazar, le pseudonyme de Gaël Canton, qui écrit, compose et interprète cet album. C'est son premier album solo, on avait déjà pu l'entendre dans les Two Panheads, un duo assez énergique avec un de ses collègues, Rod Delaunay, qui est un autre touche-à-tout à deux talents, on faudra peut-être vous reparler dans un an. La musique de Josie Bazar, c'est à base d'électro-minimaliste, lui se définit comme un bricoleur, et si on comprend pourquoi il dit ça quand on écoute sa musique, on peut se dire que c'est quand même un bricoleur génial. Il y a un arrière-plan un peu de boîte à rythme qui font instantanément taper du pied, des mélodies de synthétiseurs qui viennent s'entrecroiser. Et un peu comme Josie Bazar lui-même, les synthés sont souvent dans la retenue et un peu la mélancolie. Et ça peut paraître paradoxal parce qu'il y a un côté très dansant dans la musique, mais je pense que c'est ce croisement entre le côté très dansant et la mélancolie qui fait que l'ensemble fonctionne. Et quand petit à petit les synthés s'ouvrent et les mélodies s'ouvrent au fil des morceaux, on se laisse complètement emporter. Sa voix, alors vous allez voir, hein, c'est autant parler que chanter. Il parle des choses du quotidien, en même temps que des phrases un peu surréalistes qui participent à un effet un peu hypnotique, parce que c'est des phrases qui reviennent un peu comme des mantras, comme ça. Et il y a notamment, on va l'entendre dans le morceau qu'on va écouter tout de suite, il y a ce « comment, pardon, j'ai pas compris la question », et le morceau s'appelle « La ligne ».
Pour tracer une ligne, il vous faudra tout d'abord accumuler un certain nombre de points, glanés de part et d'autre. Il vous sera demandé de les nommer méthodiquement, un par un, point par point, d'un point A à un point B, plus si affinité. Comment ? Pardon ? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question.
Ça donne envie de danser, hein. C'est assez rare, hein, qu'on passe ce genre de musique sur RCF, hein. J'espère que les auditeurs sont restés jusqu'au bout.
Je suis là pour ça. Si vous avez l'occasion d'aller voir Josy Bézère sur scène, n'hésitez surtout pas parce que c'est encore plus dansant. Il était au Bar en Trans, au Transmusical de Rennes l'année dernière. Et puis il a fêté la sortie de son album au Trinitaire il y a quelques semaines. Il est tout seul sur scène, entouré de ses synthés. Mais il a une présence dingue qui décuple encore la puissance justement dansante de ses morceaux. C'est vraiment difficile d'y résister, pas se mettre à danser dans la salle. Donc le premier album s'appelle Alinéa. Hein, vous pouvez le trouver partout sur toutes les plateformes d'écoute et bien sûr chez vos bons disquaires de vos villes.
Voilà. Merci Nicolas Tauchin.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Suite de cette émission Effervescence, et place maintenant aux comédiens avec une réflexion sur le travail de l'acteur. Laurence Marie est universitaire, spécialiste du XVIIIe siècle. Elle enseigne aux États-Unis et à l'occasion de la réédition du Paradoxe du comédien de Denis Diderot, elle a été voir 50 artistes, des comédiens, des chanteurs lyriques hein, plutôt, des danseurs, pour les faire parler de leur jeu et de leur rapport à la scène. Je l'ai rencontré il y a quelques jours dans un café parisien. J'ai commencé par lui demander de nous présenter le paradoxe du comédien.
Le paradoxe sur le comédien, c'est justement un paradoxe, comme l'indique son titre. C'est l'idée que l'acteur, pour pouvoir toucher le spectateur, doit être touché lui-même. Et Diderot va contre cette idée-là. C'est une idée qui est énoncée par un poète latin qui s'appelle Horace, un poète du IVe siècle, et qui est partagée par tout le monde. C'est l'idée que si vous voulez que je pleure, il faut que vous pleuriez vous-même. Et Diderot est un des seuls au XVIIIe siècle à aller contre cette idée-là. Et pour lui, le paradoxe est justement qu'il ne faut pas être ému soi-même pour pouvoir émouvoir l'autre. Donc il faut jouer de sang-froid. Il utilise le mot sang-froid, comme avec le sang qui coule dans les veines, mais également le sens froid, c'est-à-dire l'esprit froid. Donc il y a ces deux termes qui sont présents dans le manuscrit du paradoxe. Et c'est l'idée que l'acteur doit être entièrement lucide, qu'il ne doit jamais être submergé par ses émotions, parce que s'il ressent des émotions, il va être submergé par elles, il va se mettre à pleurer, sa voix va se mettre à chevrotter, il va être incapable finalement de créer une illusion, puisqu'il va être envahi par ce qu'il ressent.
Quelle est la place du théâtre dans la société dans laquelle évolue Denis Diderot ?
Alors, elle est absolument centrale. On pourrait l'associer aujourd'hui, je ne sais pas, à Netflix peut-être, pour ne pas le citer. Mais tout le monde se retrouve au théâtre. C'est vraiment le premier divertissement pour toute la société, et pas seulement pour l'élite, mais aussi pour les classes populaires qui vont se retrouver debout, au parterre, devant la scène, là où qu'on appelle aujourd'hui l'orchestre, où les places sont très peu chères. Donc, c'est un endroit où tout le monde se retrouve, pas forcément d'ailleurs pour regarder la pièce, mais aussi pour discuter, pour voir et pour être vu.
Laurence Marie, vous commencez votre livre avec une anecdote entre Dustin Hoffman et Laurence Olivier sur le tournage du film Marathon Man, c'est en 1976. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, parce qu'elle est incroyable?
Alors, c'est Dustin Hoffman qui doit jouer un personnage qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Et donc, il arrive sur le tournage et il n'a pas dormi depuis 3 jours lui-même pour pouvoir jouer cette scène. Et il est vraiment mal en point. Et c'est alors que Laurence Olivier lui dit « Mais pourquoi tu ne joues pas tout simplement ?» Cette anecdote, elle est reprise un peu partout et elle est restée très célèbre. C'est l'opposition, voilà, entre d'un côté l'Actors Studio américain, qui est un peu l'antimodèle pour beaucoup, beaucoup, dont les excès, on va dire, sont l'antimodèle pour énormément de personnes. Et de l'autre, un jeu qu'on peut considérer peut-être un peu plus à la française, qui est fondé sur l'idée qu'on joue et qu'on ne fait pas, on ne reste pas soi.
Pourquoi est-ce que l'Actors Studio est un antimodèle aujourd'hui ?
Alors, la plupart des comédiens, des metteurs en scène que j'ai interviewés, le considèrent vraiment comme un anti-modèle parce que c'est l'idée, par exemple, que pour pouvoir jouer quelqu'un qui est un peu gros, il faudrait prendre du poids, ou que pour pouvoir jouer un ouvrier, il faudrait passer un an dans une usine. Et ce que mettent en avant les acteurs, et c'est vraiment en lien avec ce que dit Diderot, c'est que jouer, c'est un métier, et que justement, peut-être que pour pouvoir jouer, par exemple, quelqu'un qui vit dans la rue, on n'a pas besoin de vivre dans la rue, et peut-être que justement, on pourrait le jouer encore mieux en observant cette personne et en l'imitant, parce qu'il s'agit de créer une illusion. Il ne s'agit pas de reproduire exactement la réalité sur la scène, et Diderot dit exactement ça. Si on cherche à la reproduire en vivant les choses de l'intérieur, en fait, il va y avoir toujours une dissonance qui va briser l'illusion et qui va faire qu'on se dit « ah ben non, c'est du théâtre », alors que si on le joue...
Il s'agit d'assumer l'illusion et d'assumer que le théâtre est une convention, c'est ça ?
Exactement, c'est d'assumer l'idée que le théâtre est une convention et que c'est parce que c'est une convention que justement on va réussir à plonger le spectateur dans l'histoire.
Alors Laurence Marie, je l'ai dit, vous êtes universitaire, vous travaillez sur le XVIIIe siècle, vous êtes une spécialiste de Diderot, vous avez fait votre thèse je crois dessus, vous publiez en ce moment 2 livres, je le redis, vous faites une nouvelle édition chez Folio Classique du Paradoxe sur le comédien de Diderot, et puis vous publiez aussi chez Gallimard Les Paradoxes du comédien, et vous avez été voir 50 grands comédiens français, et vous leur demandez, qu'est-ce que vous leur avez demandé au fait ?
Alors, le point de départ du projet, c'était le folio classique du paradoxe sur le comédien. Et je m'étais dit, ce serait intéressant de savoir ce que pensent les acteurs, les metteurs en scène aujourd'hui du paradoxe sur le comédien. Est-ce qu'ils continuent à le lire ? Est-ce qu'il a une influence sur eux ? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette théorie du sang-froid ? Et je n'avais aucun a priori. Je suis allée voir quelques comédiens, notamment Guillaume Gallienne ou Florence Viala à la Comédie Française. Et c'était, ce qu'ils m'ont dit était si passionnant que j'ai proposé à Gallimard de faire un ouvrage complet sur cette question. Puisque chacun m'a, à partir de la question que je leur posais, c'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que vous pensez du paradoxe sur le comédien, de cette théorie du sang-froid qu'énonce Diderot ? Est-ce que vous avez lu ce texte ? Donc, question, point de départ. Et ensuite, surtout, comment vous, est-ce que vous jouez sur la scène ? Quelle est votre relation aux émotions ? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes en scène ? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous recevez le texte que vous allez jouer et que vous vous préparez ?
Et là, ce qui est incroyable, c'est que vous avez 50 artistes devant vous et vous avez 50 réponses. Et c'est Catherine Yégel qui dit « Chaque acteur est une histoire, chaque rôle est un projet singulier ».
Exactement. Catherine Yégel, justement, était très, très amusante. C'est vraiment un personnage haut en couleur. Et elle me disait, au début, elle ne voulait pas me répondre. Elle me disait, moi, de toute façon, je suis contre toute théorisation. Chaque acteur est singulier. L'acteur est un caméléon. Et la théorisation est impossible. Mais en me disant ça, elle a quand même, finalement, proposé une théorisation qui est une des plus fascinantes du livre.
Est-ce que vous faites une différence entre le jeu au cinéma et le jeu sur scène au théâtre ?
Plusieurs des acteurs et metteurs en scène que j'ai interviewés, il y a notamment Arnaud Desplechin, metteur en scène et réalisateur, effectivement parle de... Je leur ai posé la question de savoir si leur jeu était différent au théâtre ou au cinéma, et tout le monde me dit que c'est le cas. Isabelle Carré est celle qui me dit qu'elle ne fait pas une énorme différence entre les deux, que pour elle c'est la même chose, sauf que évidemment au cinéma, ce qui est plus compliqué quand on pleure, c'est qu'il faut, il y a comme un bouton on and off, et qu'il faut savoir s'arrêter, reprendre, s'arrêter, que c'est plus difficile au cinéma, pour elle en tout cas, qu'au théâtre, où il y a une continuité narrative qui fait qu'on est dans le personnage et on joue les scènes dans l'ordre.
Vous avez aussi interrogé des danseurs. J'aurais pas imaginé que le paradoxe du comédien pouvait concerner des danseurs et des danseuses.
Je pense que pour la danse, c'est quand même plus proche de ce que disent les acteurs, et que l'émotion peut plus facilement infuser finalement dans la danse que dans l'opéra, où Nathalie Dessay, par exemple, me disait que elle, si vous pensez à la fameuse scène dans La Flûte enchantée de La Reine de la Nuit, qui est une scène très théâtrale, Nathalie Dessay est connue pour son jeu très dramatique, et on le voit même, on peut regarder une vidéo de ce passage sur YouTube, et c'est vraiment fascinant. Elle a l'air très en colère, sa performance est extrêmement dramatique, et elle me disait qu'elle ne ressentait pas une once d'émotion, parce que si elle ressentait ne serait-ce qu'une micro-émotion, elle ne pouvait plus chanter. Et que donc pour elle, la théorie du sang-froid de Diderot s'applique parfaitement aux chanteurs lyriques. En revanche, j'ai interviewé d'autres chanteurs lyriques qui ne me disent pas la même chose. Donc c'est encore une fois une approche singulière.
Laurence Marie, j'ai l'impression que le paradoxe du comédien de Diderot est quelque chose de très moderne, dans le sens où il nous parle de nos émotions et de ce qu'on en fait, et ça c'est une question très contemporaine.
Aujourd'hui, cette question des émotions, elle est centrale. Tout le monde s'intéresse aux émotions, à des courants de recherche qui sont liés à la question des émotions et aussi au rapport. Donc ça intéressait déjà les philosophes au XVIIIe siècle, la question du spectacle vivant comme une sorte de laboratoire d'expérimentation pour les émotions, puisqu'il s'agit sur la scène de produire des émotions sur commande et de les refaire surtout chaque soir. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça tout le mystère du comédien, quelque chose qui échappe complètement à la théorisation, c'est chaque soir comment on refait on rejoue le même personnage avec des paramètres différents, puisque chacun arrive avec sa journée, les partenaires également, le public n'est pas le même, et tout le monde insiste là-dessus, c'est sur ce qui vraiment échappe, et c'est justement le caractère étonnant. Il faut se laisser porter finalement par la surprise qu'est chaque représentation.
J'ai beaucoup aimé votre entretien avec Guillaume Gallienne. Et Guillaume Gallienne, il parle aussi de l'imaginaire, de l'importance de l'imaginaire.
Alors en effet, Guillaume Gallienne m'a accordé un entretien vraiment passionnant où il m'a raconté beaucoup d'anecdotes très significatives. Et il raconte que quand il était étudiant au conservatoire, il était dans la classe de Daniel Mesguich, qui d'ailleurs est également dans le livre. Il dit qu'il n'arrivait pas à jouer une scène d'Harold Pinter, et que sa mère lui a donné une simple indication, baisse les épaules, et par juste ce simple changement de posture, tout d'un coup, la scène a été beaucoup plus facile à jouer pour lui, et qu'il a réussi à incarner son personnage.
Laurence Marie, quand je lis votre livre, quand je réfléchis avec vous, il y a des polémiques qui reviennent dans mon esprit, qui sont des polémiques contemporaines, qui nous viennent des États-Unis où vous vivez, où vous enseignez, c'est la question de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut jouer un personnage noir si on n'est pas noir ? Est-ce qu'on peut jouer un personnage homosexuel ou un personnage transsexuel si on n'est pas soi-même homosexuel ou transsexuel ? Alors, comment est-ce que le travail de Diderot nous aide à réfléchir à cette question ?
Alors, je pense qu'il nous aide effectivement énormément à réfléchir à cette question. Est-ce qu'on peut jouer quelqu'un qui n'est pas soi ? Pour moi, évidemment que oui. Genre, je vis aux États-Unis et beaucoup de personnes là-bas vous diraient « mais absolument pas, pour pouvoir jouer une personne noire, il faut être noir. Pour pouvoir jouer, je ne sais pas moi, un mendiant, il faut avoir mendié ». Au contraire, Diderot nous montre bien que le jeu, c'est un trucage. Le jeu, c'est une imitation. Donc, il faut pouvoir observer et devenir quelqu'un d'autre tout en gardant un rapport lucide sur ce qu'on est en train d'imiter. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de Diderot, qui dit « rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et je pense que c'est très très intéressant justement de réfléchir à la question de l'identité. Qu'est-ce qui nous relie aux autres et est-ce qu'on peut imiter quelqu'un d'autre sur la scène ? Diderot nous répond « oui, absolument ». Et comme le dit par exemple Ariane Ascaride dans le livre, elle dit qu'elle joue souvent des rôles de femme de ménage en gros, qu'elle vient elle-même d'un milieu populaire, mais que pour elle, il n'y a pas besoin d'avoir passé un mois dans une usine pour pouvoir jouer une ouvrière. Et qu'un jour, elle devait jouer une poissonnière et qu'elle est juste allée voir une poissonnière au marché. Elle lui a demandé « mais comment est-ce que vous attrapez vos poissons ?» La poissonnière lui a montré et puis ensuite, elle l'a fait et elle dit dans le livre, et c'est intéressant, elle utilise le mot « ça suffit pour être crédible ». L'idée, c'est d'être crédible et que justement, on joue d'autant mieux qu'on n'est pas ce personnage-là. Parce que, et c'est ce qu'explique bien Diderot, si on est trop proche du personnage, on se laisse envahir par les émotions, on se met à pleurer, on n'arrive plus du tout à avoir la distance nécessaire pour produire une illusion, parce que le théâtre est une illusion, c'est un trucage.
Laurence Marie, ce que vous venez de nous dire est vraiment très intéressant, mais vous pouvez enseigner ça aux États-Unis ? Comment est-ce que les Américains, vos étudiants américains, reçoivent le travail de Diderot sur le jeu de l'acteur ?
Alors, j'enseigne pas directement le paradoxe sur le comédien à mes étudiants, mais effectivement, j'essaye toujours d'instiller dans mes cours, pas de manière frontale, parce que c'est compliqué à faire, mais en tout cas, d'insister sur le fait que, par exemple, les écrivains francophones, à la différence des écrivains américains, ou du moins de l'idée que les étudiants se font des écrivains américains, qui sont, comme on dit, racisés. Les écrivains francophones, comme Marie Ndiaye, par exemple, vont dire « moi, je suis avant tout écrivaine, et je ne suis pas une écrivaine noire. Je suis une écrivaine française, et la question de la couleur de ma peau n'a pas directement à voir avec ce que j'écris, alors qu'aux États-Unis, on a plutôt tendance à penser que, voilà, on a une littérature noire et qui met la question de la race au premier plan. Et finalement, le problème aussi avec cela, c'est qu'on enferme chacun dans ce que Laurent Dubreuil, dans un livre très intéressant, appelle la dictature des identités, où chacun ne peut être que lui-même. Donc de manière, j'espère, assez subtile, j'essaye en citant d'autres personnes que moi et en essayant de ne pas exposer juste ma propre opinion, de faire réfléchir les étudiants sur ces questions, mais par rapport à la France, il faut le faire de manière indirecte, je dirais.
Laurence Marie, nous sommes dans une émission qui s'appelle Effervescence et le sous-titre de cette émission, c'est le magazine de l'étonnement culturel. Et je crois que ce mot d'étonnement vous intéresse.
Tout à fait, parce que l'étonnement, il est au cœur du théâtre, il est au cœur du paradoxe sur le comédien, il est au cœur des témoignages des acteurs, des metteurs en scène, des chanteurs, des danseurs que j'ai interrogés, puisque le théâtre, ce n'est pas quelque chose qu'on va jouer une fois, c'est quelque chose qu'on refait chaque soir avec des paramètres différents. Chacun arrive avec les sentiments qu'il a traversés dans la journée et qui informent la manière dont il joue. Il joue avec des partenaires qui ont eux-mêmes eu une journée différente et donc qui vont influencer la manière dont les autres acteurs jouent. Le public est différent. Plusieurs anecdotes racontent les incidents qui peuvent se passer dans une salle. Quelqu'un qui s'évanouit, un téléphone qui sonne. Et cela influe aussi sur la manière de jouer, qui fait que chaque représentation est différente et suscite finalement un étonnement. Et ce qui est intéressant aussi dans ces témoignages, c'est que les acteurs expliquent aussi l'étonnement qui peut les prendre par rapport aux émotions qu'ils ressentent de manière inattendue. C'est ce que Jacques Weber appelle le malgré soi. Quelque chose se passe malgré soi. On peut avoir tout préparé, connaître son rôle sur le bout des doigts, et le malgré soi apparaît, le malgré soi surgit et provoque l'étonnement de l'acteur, mais aussi l'étonnement du spectateur qui est face à quelque chose d'absolument unique. Et c'est d'aller dans les coulisses de ce malgré soi, c'est ce que j'ai essayé de faire en interrogeant ces acteurs pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de leur corps, ce qui nous est invisible finalement, parce que nous on ne voit que la face visible d'un processus très complexe et qu'eux-mêmes d'ailleurs ne savent pas toujours définir complètement, parce qu'il est étonnant et indéfinissable finalement par définition.
Et voilà, vous avez reconnu Nathalie Devesay dans La Reine de la Nuit, et vous avez compris, hein, c'est avec une telle virtuosité est possible que s'il n'y a aucune émotion. C'est la fin de cette émission Effervescence. Merci à tous ceux et toutes celles qui l'ont rendu possible. Je remercie d'abord nos chroniqueurs du jour, Éric Payet, Nicolas Tochet et puis Guillaume Goubert à distance. Merci à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission. Je ne vous quitte pas sans glisser dans vos oreilles une citation. Elle était citée tout à l'heure par Laurence Marie. « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » C'est signé de Terence, un écrivain de l'Antiquité. Bonne semaine à tous.